Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette époque estivale, je vous propose de feuilleter aujourd'hui un roman à la fois solaire et binaire. Éclairé par la lumière de la Méditerranée, c'est aussi un texte sur le deuil qui retrace avec délicatesse la résurrection d'un homme après la disparition de sa femme. Paru sous le titre « Croire au merveilleux » aux éditions Gallimard, ce livre est signé du journaliste et écrivain Christophe Onodibio qui ici poursuit en pointillé son ouvrage précédent intitulé « Plongée », Grand Prix de l'Académie française en 2013. De la Grèce antique au souvenir des attentats terroristes en juillet dernier, ce roman navigue entre plusieurs eaux et glisse d'un univers à l'autre comme un poisson. Rencontre. Bonjour Christophe Onodibio.
Bonjour.
Votre nouveau roman, qui raconte l'épopée d'un homme en deuil après la disparition de sa femme, est éminemment méditerranéen, baigné par la culture grecque, italienne et espagnole. Il est traversé par la mer, les mythes, l'amour et la mort. Et pour reprendre une citation que vous attribuez à l'un de vos personnages, un poète grec, est-ce que le projet de ce livre est aussi de décrire le monde actuel en utilisant la littérature antique?
Oui, c'est un livre qui parle du monde actuel. La situation d'ailleurs est posée, le contexte compliqué dans lequel on vit aujourd'hui est à l'arrière-plan, hein, pas trop présent, mais il est à l'arrière-plan. Mais j'avais envie, justement par rapport à cette époque compliquée, chaotique, croire au merveilleux, c'est ça, de remontrer qu'au fond, la vie des hommes, la vie des femmes, l'envie qu'on a par exemple, d'être avec ses enfants, de redevenir amoureux, passe par l'attention aux choses qui pour moi sont essentielles, c'est-à-dire ces grands bains de soleil, cette présence de l'éternité au fond, qui est celle de la Méditerranée, qui est ce millefeuille de mythes, d'histoires, de civilisations. Et c'est vrai que j'avais envie d'un grand bain de Méditerranée, j'avais envie que le lecteur plonge avec moi dans les grottes sous-marines, ressente la puissance du soleil sur sa peau, croque dans des citrons, boive du vin, regarde les peaux se dorer au soleil. Je parle beaucoup d'art aussi, donc c'est vrai que c'était un peu pour moi, l'idée c'était d'offrir une sorte de contrepoison peut-être à l'époque compliquée, contemporaine, parfois très très sombre, sans la nier, hein, sans nier ce côté sombre, mais justement en faisant appel aux forces de la vie sur les forces de la mort.
On va reparler de ces oppositions, mais commençons par le début. César, donc, journaliste français dont l'épouse Paz a disparu, est un veuf inconsolé qui tente de survivre à la douleur aussi pour son fils. Il a un petit garçon de 6 ans, mais qui ne peut pas se détacher du fantôme de sa femme. Il va donc sur les traces de leur amour en Italie. Il tente de retrouver sa trace à travers une statue qu'il fait réparer. Il va dans une grotte où ils allaient nager. Est-ce que c'est aussi un peu le mythe d'Orphée et d'Eurydice, l'histoire de cet homme qui ne pouvait pas se résoudre à la mort de son aimé qu'il va chercher jusqu'aux enfers?
Oui, c'est ça, les mythes dont on parlait, les... Pour moi, c'est très contemporain. En fait, les grandes histoires mythiques continuent à parler aujourd'hui. Orphée, c'est ce personnage de poète qui va chercher, qui demande aux dieux la permission d'aller rechercher la femme qu'il aimait, et les dieux acceptent. Mais il finira par rater. Au fond, c'est une grande image de ce que c'est que le deuil. Finalement, il faut descendre, nous aussi, aux enfers, parfois s'adresser à celle qu'on aimait pour pouvoir remonter. Et c'est ce qu'on appelle faire son deuil. Moi, toute la mythologie qui m'a nourri quand j'étais un petit garçon normand à 12 ans, sous la pluie normande et disons la couleur un peu verte de la Manche, hein, puisque j'ai grandi au Havre. Au fond, certains de mes professeurs m'ont donné la clé de cette Méditerranée en me faisant faire du grec, et en fait cette langue que je déchiffrais m'aidait à entrer dans ce monde méditerranéen plein de dieux absolument capricieux, de déesses qui veillaient sur les hommes, et j'aime beaucoup. Il est question de ça dans Croire au merveilleux. Est-ce que parfois des choses ne veillent pas un peu sur nous, ce qu'on appelle la bonne étoile? Et au fond, quand quelqu'un est fracassé par le deuil, c'est les premières pages qui sont très très sombres. Moi, il fallait que je le fasse passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, et il est aidé par ses histoires. Et Orphée en est une, Ulysse aussi en est une autre. C'est aussi ça, et c'est vrai que pour moi, ces histoires méditerranéennes dont vous parliez si bien, elles nous aident à penser le présent, en fait. Elles sont éternelles, en fait, ces histoires-là. On peut se projeter dans ces histoires-là.
Après ce que vous venez de nous dire, Christophe Onodibio, je comprends un peu mieux d'où vient cette connaissance, cette érudition sur ce monde grec, sa langue, sa culture, ses mythes. Alors, revenons à César, parce que il est donc dans son appartement, entouré de littérature classique, et cette gourmandise pour les mythes est partagée par sa nouvelle voisine, Nana, d'origine grecque, justement, avec laquelle il a de longues discussions sur cette littérature, sur ces grands personnages, comme si ça les aidait l'un et l'autre à tenir. Et je me demandais, est-ce que vous pensez en effet que les livres, les récits, les légendes peuvent sauver du désespoir?
Oui, peuvent en tout cas nous donner la distance nécessaire pour regarder le réel. Je voulais que ça soit que ce livre raconte un sauvetage aussi par les livres. Et c'est vrai que quand ce personnage est en train de se retirer du monde, hein, il a pris des médicaments, ce sont les premières pages du livre. Je voulais qu'il y ait une sorte de deus ex machina, vous savez, comme on dit au théâtre, d'apparition. Comme ça peut arriver dans la vie, une rencontre amoureuse, c'est ça, c'est une apparition. Et il se trouve que quelqu'un sonne de façon obstinée à sa porte et en fait il ouvre parce qu'il a peur qu'on l'embête en fait dans son suicide. C'est-à-dire que ça soit la gardienne ou il préfère ouvrir la porte, dire n'importe quoi, la fermer et revenir justement à son lent sommeil au fond, hein, puisque c'est un suicide médicamenteux qu'il a choisi. Et vous l'avez dit, c'est une jeune femme qui se présente comme sa voisine, alors que sa voisine a 80 ans et c'est pas du tout une jeune femme. Et tout de suite, cette jeune femme qui s'invite dans son appartement et qui va réinviter la vie dans son corps et dans son âme totalement consumée, elle se dirige vers sa bibliothèque. Et pour moi, c'est presque le premier geste, non pas amoureux, parce qu'ils n'ont pas une relation amoureuse normale, mais tout de suite, il fallait que le livre soit au centre de la relation entre cet homme plus âgé et cette jeune femme. Elle prend un livre dans sa bibliothèque, qui sont des livres bilingues, grec et latin, la fameuse collection Budé, et elle prend la Théogonie d'Hésiode, qui est en fait la genèse des Grecs. C'est la création du monde, c'est l'apparition, c'est génial à lire, c'est l'apparition des dieux, comment Athéna est sortie de la tête de son père, comment la terre, comment son père, comment le fils a coupé les testicules du père pour prendre le pouvoir sur lui, a jeté les testicules dans l'eau. L'eau, ça a fait l'écume, d'où est née Aphrodite, la déesse de l'amour. Vous voyez, tout ça est lié. C'est absolument génial. Et il voit cette petite jeune femme qui dit « Ah ben, je vais travailler mon français, puisqu'elle est grecque, puisque c'est du grec ancien, je le comprends à peu près. » Et évidemment, qui dit livre emprunté, elle lui demande de l'emprunter, dit livre rendu. En tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer, j'espère. Moi, j'aime qu'on me rende les livres que je prête.
C'est rarement le cas.
C'est rarement le cas, malheureusement. Mais en tout cas, il y a plein d'histoires qui naissent, même des histoires amoureuses qui naissent à travers les livres qu'on se prête. Et j'aimais que ce livre, que cette culture-là, mais qui est au fond très simple. Dites, c'est érudit, mais en même temps, ça nous parle. En fait, ce sont des légendes, ce sont juste des histoires d'amour, des histoires de meurtre, des histoires absolument violentes, mais passionnantes aussi, de création. Et je voulais que cette jeune femme dise à cet homme-là, toute cette culture que t'as, tous ces contes que tu as, c'est important. C'est pas une culture à jeter, et ton fils, il en a besoin. Et j'aimais bien que ça soit l'idée de cette grecque, cette étrangère, qui fasse se reconnecter cet homme et son fils. Et je me souviens, vous voyez, quand j'étais petit, j'étais fasciné par une femme, j'étais amoureux d'Athéna, donc la déesse à la fois de la guerre et de la sagesse. Nana, le nom de la personnage, Nana est le diminutif d'Athéna. En Grèce, les jeunes filles grecques portent souvent des noms de déesses. Certaines s'appellent Dimitra, Déméter, Nana, Dita, qui est le diminutif d'Aphrodite. Et en fait, quand j'ai lu l'Odyssée, à la fin de l'Odyssée, quand Ulysse est le dernier, tous ses compagnons sont morts, il y a un dernier naufrage, il arrive sur une île inconnue, et en fait il est nu, il est couvert de sel, il ressemble vraiment tout barbu, tout, il fait peur. Et en fait, il y a une princesse qui joue à la balle sur la plage avec ses servantes, elles viennent de laver le linge, et cet homme-là sort, nu, et toutes les suivantes fuient devant cette espèce d'apparition virile. Et Nausicaa, qui est la princesse, qui est cette jeune femme, Athéna lui a retiré la peur de sa tête. Et en fait, elle accueille cet homme-là, qui est un étranger, et elle l'emmène à son palais. Aujourd'hui, on ne peut pas lire ça sans penser aux migrants, par exemple. Les Grecs savaient qu'il fallait regarder l'autre avant de le juger. Et cette jeune femme sur la plage qui accueille cet homme tout poisseux, tout sale, après un naufrage, je trouve ça formidable. Et j'avais besoin, moi je voulais que cet homme-là, il soit aussi sauvé par une femme. Pas forcément une amoureuse, mais une femme qui a une bienveillance, un savoir très ancien et qui est peut-être finalement bien autre chose qu'une voisine de 23 ans.
Christophe Nodibio, dans ce roman, Croire au merveilleux, on l'a compris, vous faites se miroiter passé et présent, hommes et dieux, réalisme et merveilleux, obscurité et soleil, paix et guerre. Et d'ailleurs, vous incluez les actes terroristes dans votre récit, les attentats à Paris, mais aussi l'an dernier à Nice. Est-ce que vous-même avez été rattrapé par la réalité pendant l'écriture de ce livre ?
Oui, en fait, j'ai terminé le livre au mois de janvier. Je l'ai beaucoup écrit aussi, repris en fait cet été, parce que ça faisait un nombre d'années sur lequel j'étais. Et c'est vrai que Nice, je le mentionne pas, mais on comprend très bien, puisque on sait qu'il y a une fête, il y a des feux d'artifice. Ils sont à Paris, eux, il est avec Nana, et ils sont dans cette beauté des feux d'artifice. Et je me souviens d'avoir vraiment vécu ça, c'est-à-dire cette tour Eiffel totalement envahie par les flammes du feu d'artifice, et de m'être dit c'est drôle, parce que quand j'étais plus jeune, quand il y avait la guerre du Golfe, hein, je me souviens, on voyait en fait les fusées dans le ciel et on disait ça ressemble à des feux d'artifice. Quand on voyait les premiers bombardements, les fusées traçantes.
Et aujourd'hui, c'est l'inverse.
Exactement. C'est l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'on voit un feu d'artifice, on pense à la guerre, on pense aux explosions. Parce qu'en fait, on voit beaucoup plus la guerre aujourd'hui que quand j'avais 14 ans. Et c'est vrai que cet épisode-là, ce soir-là, tout le monde avait peur qu'il y ait un attentat. Et en fait, l'attentat s'est pas produit sur la Tour Eiffel, il s'est produit à Nice. Et je voulais que cet épisode-là soit juste mentionné, parce qu'en fait, il a une importance considérable dans le livre, parce que c'est le seul moment où cet homme-là, qui était fermé au désir, qui ne regardait plus les femmes, qui ne regardait plus ses amis, qui ne regardait plus son enfant, en fait, c'est la première fois qu'après ces attentats, il rentre chez eux, lui, il est journaliste, donc il regarde son portable, et Nana, qui est là, donc cette voisine qui va prendre une importance de plus en plus grande auprès de lui, lui enlève son téléphone, et en fait accepte de dormir, je dis bien de dormir chez lui. Et en fait, après ces images de mort, ces flux de mort, cette pensée de la mort, il regarde pour la première fois une femme dormir dans son lit. Il ne se passera rien, mais il regarde le corps de cette femme, il regarde la poitrine se soulever, il regarde le mouvement de la hanche, du mollet, la chevelure sur l'oreiller. Et en fait, la vie et les forces de vie, et ça j'y crois, seront toujours plus forte que ses forces de destruction. Et je voulais que ce passage-là, Nana accepte, ne veut pas le laisser seul là, ils sont tous les deux, ils se tiennent la main, ils sont pas amoureux, on peut pas dire ça, mais elle accepte d'être là, et il regarde ce corps alors que la mort vient de frapper, et la vie est encore là, et rien ne vaut la vie, comme disait l'autre. La vie ne vaut rien, non, moi j'y crois pas, mais rien ne vaut la vie, ça c'est vrai. Et donc je voulais que ça soit en toile de fond, pas trop présent. Mais le merveilleux, ça vient de là, c'est pas une naïveté. Le monde est compliqué, il est chaotique, il faut en avoir la lucidité, mais il faut aussi avoir la lucidité de regarder et de déclencher aussi ces forces de beauté qui sont être attentif à l'autre, regarder la beauté, les musées, les œuvres d'art. On a beaucoup parlé de culture massacrée pendant ces années de terrorisme dans lesquelles on est, hein, toujours aujourd'hui. Et simplement, voilà, les enfants qui viennent aussi, à qui on va devoir transmettre, c'est une histoire de transmission,
bien sûr,
pour affronter ce monde compliqué. Pour affronter ce monde compliqué en leur donnant aussi le sens, donc ces vieilles histoires éternelles, la beauté, mais aussi l'eau, les baignades, le soleil, le partage, le vin, toutes ces choses-là, et aussi le désir d'être en vie et le désir de parler comme on le fait aujourd'hui.
En effet, c'est un roman sur la paternité, comme vous le disiez, comment être père quand on est malheureux, comment être père quand il n'y a plus de mère, que transmet-on ? En même temps, cette mère, elle est à la fois très absente et très présente, parce que, évidemment, l'élément aquatique, évidemment, les îles, tout ça nous rappelle beaucoup de métaphores maternelles.
Oui, utérines presque, ouais, voilà. C'est vrai.
Alors, pour finir, Christophe Nodibio, j'aimerais qu'on aborde quelque chose de l'ordre du style, parce que, on l'a vu, c'est un roman où se répondent des opposés. Et en même temps, vous effacez des lignes entre des frontières établies. On ne sait plus ce qui est réalité ou rêve, aujourd'hui, hier. Et il me semble aussi que par l'écriture, voire la mise en page, vous avez cherché à fusionner des pistes, le mélange des langues, français, italien, grec, espagnol, le mélange entre dessin et écriture, l'insertion ici d'une fresque reproduite, et puis César écrit un roman dessiné pour son fils, la graphie en spirale, voire l'invention d'un nouveau mot, ordiphone, qui à ma connaissance n'existe pas. Alors, quel projet sous-tend toutes ces marques d'invention?
Écoutez, vraiment, je vous remercie de votre lecture, parce que vous êtes la première à poser la question sur ce soin, oui, que j'ai essayé d'apporter à la mise en page et il y a quelques calligrammes. C'est-à-dire que je pense que l'idée de métissage global, aujourd'hui on parle beaucoup de réalité virtuelle, par exemple. Vous voyez, vous m'avez dit, est-ce qu'on est dans le rêve ou la réalité? Au 19e, par exemple, Nerval parlait, et les auteurs romantiques, on parlait beaucoup d'épanchement du rêve dans la réalité. Et au fond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, au 21e siècle, l'épanchement du rêve dans la réalité et de la réalité dans le rêve, on l'a avec la réalité virtuelle de plus en plus. C'est-à-dire que je pense qu'on va vers un monde où les frontières s'effacent. Alors, certains veulent rétablir des frontières. Il n'y a jamais eu autant de murs construits qu'aujourd'hui. Et je voulais, moi, que tout ça se mélange. Vous voyez, ce père, cette femme dont vous avez parlé, elle était espagnole. Et il a envie, en fait, que le fils ne perde pas le lien à la langue maternelle. Donc, en fait, il lui parle parfois en espagnol. Il lui montre des choses en espagnol. Le grec, c'est mon enfance à moi. Et donc, je voulais qu'il y ait quelques caractères en grec. C'est pour montrer aussi la beauté de ce langage, la beauté aussi de ce monde ancien qui a toute sa place dans le monde contemporain pour nous aider à penser le monde contemporain. Et les calligrammes, bah c'est juste qu'à un moment, ce père joue aussi avec son fils. À la fois, il lui raconte des légendes, mais aussi, ils vont dans un aqualand et ils s'amusent, comme les pères et les fils ont toujours fait dans l'histoire de l'humanité, s'amuser, se jeter de l'eau, nager ensemble. Et je voulais que voilà ces calligrammes prennent la forme des bouées dans un aqualand sur lesquelles on dévale des pistes, la forme des toboggans aussi, parce que j'aime que les mots, pour moi, on aime écrire à cause de ça. Les mots, c'est la vie, c'est aussi le plaisir, c'est la force, c'est les courants de vie. Et je voulais qu'ils soient presque animés par cette vie. Et ce monde de métissage, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est les registres parfois extrêmement simples quand cet enfant parle. Et puis c'est aussi faire appel parfois à la haute culture, quand il parle des fresques de Paestum et ce plongeur, c'est citer aussi bien un auteur grec que citer un petit enfant de 6 ans qui parle. Que c'était de la pop culture parfois, parce que je trouve qu'on vit dans ce monde-là et que l'erreur serait d'adopter une pensée binaire. Moi, on m'a toujours dit « t'es un littéraire », j'avais fait des maths, j'étais très sportif. Et en fait, chez les Grecs, il y avait cette idée-là, le corps et la beauté intérieure, la beauté extérieure, le fait d'être bon en géométrie et d'être aussi très très bon en philosophie. C'est-à-dire cette espèce de monde d'harmonie que je voulais un peu reproduire. Et puis, la dernière opposition, parce que vous l'avez mentionné et que ça me touche, vous avez parlé de vie et de mort, c'est que c'est aussi un livre sur le rapport que les vivants ont avec les morts qu'ils ont aimés. Et une des choses en lesquelles je crois beaucoup, et encore une fois qui est très présente dans les mythes grecs, on descendait parler aux morts, on a parlé d'Orphée, Ulysse aussi descend, va voir sa mère, parle à sa mère, parle à ses amis, et remonte sans eux. Et c'est aussi la grande métaphore du deuil, le fait que quand on perd quelqu'un de cher, au fond, il vit encore en nous. On peut s'adresser à lui. Il est là, on n'est pas fou, on y parle, on y pense. Et en fait, c'est aussi l'absence de frontières entre la mort et la vie. C'est-à-dire que les vivants ont un lien avec le monde des morts qui, parfois, les aide aussi à vivre. Et là, la grande leçon de ce livre, c'est que cet homme a perdu quelqu'un qu'il aimait. Et au fond, à la fin du livre, cette personne-là est présente. La mort est acceptée parce que la mort revient dans sa vie et ça va devenir, et avec cet enfant, et la synthèse sera refaite. Et au fond, les forces de la vie ont triomphé. Il n'y a pas de négation de la mort, elle est présente dans nos vies. Mais on l'apprivoise, on vit avec, et les vivants y trouvent de la force. Et ça, c'est aussi une leçon ancienne dont je pense ont bien besoin les contemporains. Et croire au merveilleux, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le monde ancien nous donne des forces pour affronter l'avenir et le façonner et le rendre plus beau.
Merci beaucoup.
Merci.
Christophe Anodibio, je rappelle le titre de ce roman, Croire au merveilleux, qui est apparu aux éditions Gallimard.